I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour, je suis Clémence Bodoc.
Je suis Esther Meunier.
Vous écoutez Activiste,
une nouvelle approche de l'action politique.
Elle devrait être en classe.
La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler.
I am not a believer in climate change.
C'est papa et maman qu'on assassine.
Vous vous transformez en véritable chien de garde de la police de la pensée.
Le choc n'est pas un choc climatique.
Et puis si on est au SMIC, eh ben faut peut-être pas divorcer non plus dans ces cas-là.
Ou dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femme.
Oh, ça suffit là.
Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Activiste. Vous avez très certainement suivi l'actualité de ce début juin, dominée par les luttes contre les violences policières. Vous avez très probablement connaissance du nom de George Floyd, cet Afro-Américain tué le 25 mai dernier à Minneapolis par un policier blanc, et des manifestations qui ont suivi sa mort aux États-Unis. Tout simplement parce que très rapidement, cette actualité outre-Atlantique a fait la une en France. En parallèle ici justement, d'autres actualités sur le thème des violences policières se déroulaient. Le 29 mai, une nouvelle expertise médicale exonérait les gendarmes de la mort d'Adama Traoré, ce jeune homme décédé après son interpellation en juillet 2016. Le comité Vérité pour Adama s'en indignait, qualifiant la dite expertise de déshumanisante, de raciste et appelant au rassemblement. Il a fallu qu'entre 20 000 et 80 000 personnes, selon les sources, descendent dans la rue, malgré les interdictions, pour qu'on finisse par en parler. Pour que s'ouvre, ici en France, une discussion sur les violences racistes que notre police inflige aussi. Et il faut voir dans quelles conditions ce dialogue s'est ouvert. Il s'est ouvert sur de multiples déclarations affirmant qu'on ne peut pas comparer la France et les États-Unis. Il s'est ouvert sur l'idée que peut-être oui, le racisme existe dans la police, mais que l'institution elle-même n'est pas raciste. Il s'est ouvert sur des plateaux parfois intégralement constitués de personnes blanches, n'ayant jamais subi le racisme, débattant entre elles. Ce n'est pas moi qui l'affirme, c'est par exemple l'analyse de la couverture médiatique sur le sujet menée par l'AJL, et plus précisément par Arnaud Pédrame avec Simon Lambert, dans laquelle quantité d'exemples illustrent cette réalité. Des experts douteux à la télé, trop peu de personnes concernées derrière et devant les caméras, des raccourcis et des stéréotypes sur la race aux États-Unis, une importance démesurée donnée aux quelques dégradations par rapport aux revendications des manifestants, bref. Cette semaine, Clémence et moi avons souhaité donner la parole à Amal Bentounsi. Amal Bentounsi est la fondatrice du collectif Urgence, notre police assassine, qu'elle a créé après que son frère, Amin Bentounsi, a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il s'enfuyait. Elle s'est battue, pendant 5 années, pour demander justice. Elle a fini par l'obtenir puisque le policier responsable de sa mort a été reconnu coupable par la justice, la légitime défense rejetée. Mais Amal n'a pas cessé de se battre pour autant. Depuis, elle est aux côtés des familles d'autres victimes de violences policières. Elle les épaule avec son collectif légalement, humainement. Elle a lancé une application pour filmer la police, UVP, Urgence Violence Policière. Elle est au front. Elle est en première ligne. Et elle a généreusement accepté de nous donner un peu de son temps, alors qu'elle était évidemment très occupée la semaine dernière. La voici donc, dans cet épisode aux allures de tribune, parce qu'elle mérite la parole, le micro, et qu'on l'écoute.
Depuis que nous menons ce combat depuis maintenant 8 ans, pour nous, ça nous semble juste exceptionnel ce qui est en train de se passer, en fait, cette prise de conscience collective sur la question des violences policières, sur la question de l'impunité, sur la question du racisme au sein même de la police. Sur la question du contrôle au faciès, tout cela, c'est des choses que nous dénonçons fermement depuis maintenant 8 ans. Je rappelle qu'on est un collectif de familles, qu'on est des familles de victimes qui avons perdu un proche à la suite d'opérations policières et que systématiquement, on dénonce ce processus qui est mis en route à chaque fois, la criminalisation de la victime à titre posthume, de façon à la rendre coupable de façon à ce que les gens, l'opinion publique ne prennent pas parti, qui ne s'indigne pas tout simplement de façon à la criminaliser, de façon à ce que l'opinion publique se désolidarise tout simplement de cette victime. Et ça, on le voit bien, et on a tenté aussi de le faire outre-Atlantique avec notamment le cas de George Floyd. Et quand on voit ces images, d'où l'importance des images, quand on voit ces images qui sont juste abominables, c'est-à-dire qu'on assiste à la mort d'un homme en direct, nous, en tant que famille de victimes, qui sommes passés par là, qui sommes passés par ce processus où on a voulu avoir des preuves, on a voulu avoir des témoins, on est en quête de justice, et que là, vous avez une vidéo qui nous parle, parce que c'est des images par exemple, pour la famille de Amadou Koumé, c'est un cas qui est peut-être pas connu, mais il est mort exactement de la même façon que George Floyd. Vous avez le cas de Wissam El Yamni, vous avez le cas de Lamine Dieng, vous avez le cas de Cédric Chouvia. Donc voilà, toutes ces victimes, on n'en parle pas, mais en tous les cas, ce qui est certain, toutes ces victimes, elles réclament la justice, comme celle de la famille d'Adama, bien évidemment, qui aussi attend que la mise en examen de ces policiers. Et on le voit bien, la difficulté qu'on a ici en France de parler de racisme structurel au sein même de la police. Et c'est ça la difficulté. Alors, à chaque fois, on va nous opposer un discours où ça serait les méchants contre les gentils. Et il y a toujours ce discours, oui, les policiers, ils font un travail formidable, c'est un dur métier, et qu'à la limite, peut-être qu'il y a une espèce de chantage comme ça, ou sous prétexte qu'ils nous protègent, qu'ils nous rendent service. Donc, de temps en temps, on pourrait leur accorder cette impunité. Mais là, ce n'est pas de temps en temps, c'est quelque chose qui est récurrent, qui est systémique, cette violence. Elle est systémique, on assiste à ça depuis des années. Depuis des années, les familles, les noms des victimes deviennent des hashtags, et tout ça, ça devient juste insupportable. Et qu'aujourd'hui, il y a une espèce de prise de conscience collective. Nous, ce qu'on voudrait, c'est que cette indignation, elle, ne soit pas uniquement ponctuelle, mais qu'elle puisse perdurer dans le temps, qu'à chaque victime, à chaque fois qu'il y aura une victime, il y aura peut-être... malheureusement, une autre version possible que celle qui est amenée par les syndicats policiers, que celle qui est amenée par le procureur, qui dépend hiérarchiquement du ministère de la Justice, qui travaille en étroite collaboration avec la police. Et on voit bien que souvent, c'est les vidéos, nous, depuis que le collectif Urgence Notre Police Assassine existe, on le voit bien, par exemple, le parquet de Bobigny, se sert de nos vidéos pour ouvrir des enquêtes, d'où l'importance des vidéos et d'où l'importance de cette application que nous avons lancée qui s'appelle UVP, Filmer la police peut sauver une vie, parce qu'on veut changer les choses, puisqu'on veut pallier un manque institutionnel. Ce travail-là, normalement, c'est le gouvernement qui doit le faire. Donc nous, on part du constat qu'à partir du moment où toutes les propositions qui nous ont été faites, par exemple les caméras de télésurveillance, qui dans toutes les affaires de crimes policiers, de crimes, de violences policières, ne fonctionnent pas dès lors qu'il s'agit de policiers. Dans le deuxième constat, c'est aussi quand on voit les caméras piétons, elles sont actionnées uniquement au bon vouloir du policier. Le RIO qui n'apparaît jamais, et quand on demande le RIO au policier, il va avoir du mal à nous le donner ou on va être agressé.
Pour rappel, le RIO, c'est le référentiel des identités et de l'organisation. Un numéro à 7 chiffres qui identifie individuellement les agents sous l'autorité du ministère de l'Intérieur, parmi lesquels les agents des forces de l'ordre, et qui doit obligatoirement être porté de manière visible depuis 2014.
Donc on a envie de rappeler que la police, elle est au service des citoyens, d'accord, et qu'on a un droit de contrôle sur cette police qui se comporte mal. Donc, et que cette application, elle est d'intérêt général. Et que au lieu de la critiquer, on devrait s'en réjouir. Peut-être que cette application va peut-être aussi changer les choses dans le comportement de certains policiers qui vont se sentir surveillés par les citoyens. Donc voilà, cette application, elle a été faite pour ça, elle a été pensée pour ça, parce que le constat qu'on fait depuis des années, tous les messages, l'accompagnement de toutes ces familles de victimes qu'on accompagne au quotidien, qu'on met en contact avec notre collectif d'avocats pour les soutenir, parce que quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes à part entière. On doit se battre doublement plus pour essayer d'obtenir la justice. Et on le voit bien dans toutes les affaires. Dans toutes les affaires de violence policière, la plus connue, bien évidemment, c'est celle d'Adama Traoré. Mais au-delà de celle d'Adama Traoré, il y a beaucoup, beaucoup d'autres familles qui attendent la justice. Et cette application, elle est vraiment faite pour changer les choses et qu'à un moment donné, que ces policiers se sachent surveiller par l'opinion publique, se sachent surveiller par les citoyens et qu'on a le droit de filmer. Ça, il faut le rappeler. C'est la circulaire, il y a une législation en vigueur, c'est la circulaire du 23 décembre 2008, la numéro 8433D. Et quand les policiers vous disent « vous n'avez pas le droit de filmer », c'est complètement faux. Donc nous, on veut imposer que ces policiers se soumettent à leurs devoirs et se soumettent à la législation en vigueur. Donc le citoyen a le droit de filmer les policiers dans l'exercice de leur fonction, que ce soit un citoyen ou un journaliste, et que si on l'arrête pour ça, que ce serait une arrestation arbitraire et qu'on peut les poursuivre dans ces cas-là si on a des éléments de preuve. Donc comment ça fonctionne? Je vais aller très vite parce que je crois que ça va couper. J'ai pas de chargeur. Comment ça fonctionne? C'est que l'utilisateur passe par l'application UVP. Il a la possibilité, dans l'onglet « Enregistrer », dans l'onglet « Réglage », il a la possibilité d'enregistrer sur son téléphone. Il faut qu'il y ait du réseau, obligatoirement, pour qu'il y ait aussi, parce que ça enclenche aussi au moment de la vidéo, ça enclenche une géolocalisation très précise. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, le premier des avantages de filmer avec l'application UVP, c'est premièrement… les images nous sont envoyées directement sur nos serveurs. Donc, il y a une analyse. Nous, on les reçoit, on voit où est-ce que c'est et qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, du coup, c'est conservé. Par exemple, si le policier vous prend votre portable, ce qui est souvent le cas, le casse ou veut vous effacer les images, il n'en a plus la possibilité. Et les gens peuvent dire qu'ils filment avec UVP parce qu'il n'y a pas un seul policier en France aujourd'hui qui ne sait pas que cette application existe, puisqu'ils ont même demandé à ce que on l'interdise, qu'il y ait une interdiction par rapport à ça. Donc, notamment dans la proposition de loi de Éric Ciotti.
Effectivement, Éric Ciotti a déposé le 29 mai dernier une proposition de loi visant à rendre non identifiables les forces de l'ordre lors de la diffusion d'images dans l'espace médiatique, avec pour objectif de protéger les agents des forces de l'ordre. Plusieurs pétitions ont été créées pour s'opposer à cette loi, dont l'une atteint plus de 485 000 signatures en ce lundi 8 juin. Retour à la fameuse application UVP.
Donc le deuxième désavantage, c'est que la personne, elle s'identifie, donc elle rentre son adresse mail. Donc du coup, on a la possibilité de la recontacter, de savoir ce qui s'est passé. Donc du coup, de l'accompagner, de lui proposer un accompagnement juridique avec notre collectif d'avocats. Et le troisième désavantage, c'est quand à partir du moment où la personne appuie sur le bouton « Enregistrer », elle enclenche une géolocalisation qui est très précise, qui nous permet d'alerter l'opinion publique, d'alerter les autorités compétentes, les tribunaux compétents, pour leur dire, voilà, il y a ces policiers qui se sont comportés comme ça dans telle ville. Et nous, ce qu'on demande à nos utilisateurs, bien évidemment, c'est qu'ils aient un comportement, qu'il y a aussi des techniques pour filmer. On ne crie pas, on n'insulte pas, parce que c'est des propos qui peuvent être utilisés contre eux. On filme la plaque d'immatriculation. S'il y a un RIO qui est par là, on le filme aussi. Le visage des policiers, on le filme de façon à ce qu'il soit identifiable. Parce que le parquet, la difficulté qu'il a, c'est qu'il travaille en étroite collaboration avec des policiers. Donc, c'est des policiers qui leur remontent toutes les informations, qui leur font des saisines et qui leur... Donc là, nous, on aura ce rôle-là indépendant de remonter ces informations au parquet et pour qu'il y ait une plainte contre tel ou tel individu pour ne pas que ce soit classé sans suite ou pour ne pas qu'il y ait des plaintes contre X, il faut que les personnes soient identifiables tout simplement. Donc voilà, donc On a plein de conseils sur notre application. C'est le début, donc il faut être clément. Là, pour le moment, il y a une suppression temporaire sur Android. Apparemment, elle a connu un succès, un grand succès, et ça tant mieux. Mais on a un lien que vous pouvez partager. Tous les gens qui nous redemandent le lien, on le met sur notre page Facebook, mais on l'a mis aussi sur Instagram. Et elle est disponible sur iOS aussi, donc sur Apple. Donc n'hésitez pas à télécharger l'application UVP. Et on a beaucoup d'artistes qui nous soutiennent, qui ont signé une tribune qui est sortie 2-3 jours avant. Et donc voilà, et donc, le combat continue. Et qu'on ne doit rien lâcher, que je vous remercie de nous donner la parole, et que parfois, malheureusement, c'est un mal pour un bien. Malheureusement, des fois, on est obligé de passer par ce genre de drame pour qu'il y ait une prise de conscience collective. Voilà, moi, ce que j'alerte sur le fait qu'il ne faut pas que ça soit juste un effet de mode de se dire que là, il y a eu George Floyd, donc on va s'indigner qu'il y a une indignation ponctuelle. On a envie que les gens soient avec nous au quotidien, qu'ils nous soutiennent, qu'ils soient sur les réseaux sociaux, qu'ils nous citent, qu'ils partagent entre eux. Voilà, c'est ça la force d'un réseau, c'est ça la force du combat qu'on mène. Et si on veut que cette indignation elle continue et qu'on puisse changer les choses et avoir ce rôle du petit colibri, voilà, dans la forêt.
Comment ça se fait qu'on a autant de mal en France à admettre qu'on a un problème de racisme ? Parce que tout ce que vous venez de décrire, c'est une réponse citoyenne, pragmatique en réalité, au problème des violences policières. Mais c'est quoi la réponse politique que vous attendez en face ? Et je repose la question de pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à admettre qu'on a un problème de racisme en France ?
Ben, je crois qu'il y a un véritable déni de la part des institutions dans leur ensemble, hein, dans l'ensemble en règle générale. Que ce racisme structurel, la France a beaucoup plus de facilité à en parler dès qu'il s'agit des États-Unis, de l'outre-Atlantique. Mais dès lors qu'on en parle en France, ah non, circuler, il n'y a rien à voir. C'est complètement faux. C'est-à-dire que à chaque fois. Sur les plateaux télé, moi, c'est juste fatigant d'avoir des chroniqueurs, d'avoir des journalistes avec un aplomb qui vont venir vous affirmer que ce racisme n'existe pas, qu'il n'y a pas de racisme en France. Alors que comment ils peuvent s'en rendre compte qu'il n'y a pas de racisme à partir du moment où ils n'ont jamais été touchés par ce problème-là. Comment on peut venir affirmer un tel mensonge, en fait ?
On sait que ces actes racistes de la part des forces de l'ordre sont documentés. Je vais juste donner quelques exemples. Amnesty International a lancé une nouvelle alerte après avoir authentifié pas moins d'une quinzaine de vidéos dans lesquelles les forces de l'ordre ont fait un usage illégal de la force, parfois associé à des injures racistes, rien que pendant le confinement. Et ça arrive après plusieurs enquêtes, dont certaines paraissaient déjà en 2005 ou 2009. D'autre part, le défenseur des droits lui-même signalait déjà en 2017 que 80% des personnes correspondant au profil de jeunes hommes perçus comme noirs ou arabes déclarent avoir été contrôlées dans les 5 dernières années, contre 16% pour le reste des enquêtés. Donc il y a une réalité du contrôle au faciès en France. Et dans son rapport annuel, paru ce lundi 8 juin, le défenseur des droits, toujours, explique qu'en matière de contrôle des forces de sécurité de l'État, il a demandé l'engagement de poursuites disciplinaires dans 36 dossiers, mais qu'aucune de ces demandes, pourtant rares et motivées, comparée au fait que 3987 réclamations aient été faites sur la même période, n'a été suivie d'effet.
Et dès lors qu'on vient et qu'on en parle et qu'on dit les choses publiquement, c'est dérangeant. Donc oui, il y a un véritable déni que là, le préfet allemand vienne s'exprimer. Ben, il était temps qu'il s'exprime puisque ça fait des années qu'on n'entend aucun dirigeant politique condamner les violences policières. La réponse pénale, elle est la même. aucune condamnation pour la plupart. Ces policiers bénéficient d'une totale impunité. Donc la réponse, c'est qu'il y a un déni tout simplement et qu'à un moment donné, il faut arrêter de nier qu'il existe un racisme structurel au sein de ce pays qui est la liberté, qui est le pays des droits de l'homme et qu'on a du mal à le reconnaître. Par contre, on le reconnaît facilement pour d'autres pays. Et c'est juste scandaleux. Mais je pense que petit à petit, les gens prennent conscience et qu'il faudrait déjà qu'on commence par virer certains journalistes et certains chroniqueurs qui se permettent de véhiculer une haine contre les Noirs, les Arabes, contre toutes ces personnes aussi qui meurent. Parce que moi, quand j'ai vu l'interview de Éric Zemmour, j'étais juste scandalisée d'entendre Éric Zemmour qui vient vous dire sur un plateau télé que George Floyd avait un passé judiciaire. Donc ça veut dire, la peine de mort, elle existe encore peut-être aux États-Unis, mais que cet homme-là, qui est français, qui vit en France, venir justifier la mort d'un homme, alors que sa mort, elle a été filmée en direct, qu'il était là, agonisant, et que de trouver des justifications à chaque fois pour défendre cette police, c'est juste scandaleux, c'est révoltant, c'est écœurant, c'est à en vomir. Je n'ai pas tous les termes, je ne pourrais pas vous les citer, mais c'est juste impossible, c'est scandaleux. On ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas. C'est vraiment monter une population contre une autre et il serait peut-être plus judicieux de, c'est peut-être pas le terme, mais peut-être qu'on devrait peut-être reconnaître qu'il y a des gens qui sont racistes au sein même de la police et reconnaître cette réalité qui est une réalité qu'on vit, nous, les banlieues, les gens de couleur, les gens des quartiers populaires, de la banlieue. Et que ça fait des décennies et qu'il y a beaucoup de choses à raconter. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails tout de suite, mais déjà qu'on commence par raconter l'histoire de France. Mais l'histoire de France, pas du point de vue, pas avec une grille de lecture qui ne reconnaît pas, par exemple, le colonialisme où on nous parle très peu d'esclavage. Ou le rôle de l'esclavage qu'a joué la France. Donc là, on repart très, très loin. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu cette problématique, il faut rentrer dans les détails. Mais en tous les cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe un racisme. Il y a des témoignages. On ne peut pas le nier. Il y a des témoignages. Là, j'ai vu ce matin sur Arte, il y a un policier qui a publié... c'est juste abominable de se dire que ces gens-là ont des armes entre les mains.
Dans ce podcast, effectivement, on entend un policier noir et son avocate commenter des extraits d'audio à caractère particulièrement raciste, mais aussi antisémite, LGBT-phobe, sexiste et j'en passe. Ils affirment aussi qu'ils se préparent à une guerre raciale suite à l'effondrement de la société, guerre raciale qu'ils attendent de pied ferme. Et si depuis la publication de ce podcast le 4 juin, on sait que ces policiers ont été envoyés devant le conseil de discipline, en réalité, jusqu'ici, ils étaient restés en poste, malgré la plainte de leurs collègues, donc.
Vous savez, le message que transmet indirectement la justice, j'ai fait un post ce matin concernant ces propos-là que j'ai entendus sur Arte, le message que transmet indirectement la justice, c'est de dire quoi ? C'est de dire que le meilleur métier pour être au-dessus des lois, si vous avez une idéologie fasciste, raciste, et que vous avez envie de tuer des Noirs et des Arabes, ou des minorités, les gens du voyage, et toutes ces minorités qu'on n'entend pas, eh bien, engagez-vous dans la police française, en fait. Ça va vous paraître choquant, mais aujourd'hui, quelqu'un qui a une idéologie raciste, où on entend ce genre de propos, j'ai acheté, je ne sais plus ce qu'il a dit, j'ai acheté mon arme, et que ces gens-là sont au service sont dans la police, mais ça fait froid dans le dos. Et ça, c'est là, les gens le découvrent, mais ça fait des années qu'on le dit. Parce que, vous savez, il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. Vous voyez ? Juste quand... il faut le vouloir. Il faut avoir une volonté de tuer un homme de ses propres mains. C'est pas anodin, ce policier là qui a tué George Floyd. Eh bien, il y en a beaucoup d'autres qui circulent en France et qui sont là et qui n'ont jamais été poursuivis. Je pense aux policiers qui ont tué Wissam El Yamni, qui l'ont tabassé dans un commissariat. Je pense à Ali Ziri, ce retraité de 69 ans, qu'on a l'expertise médicale à relever des hématomes sur tout son corps, classé sans suite. Je pense à Lamine Dieng dans un fourgon. Je pense à Cédric Chouvia. Je pense à Amadou Koumé. Je pense à Adama Traoré. Et c'est juste insupportable qu'on puisse croire que c'est pas volontaire, parce qu'il faut le vouloir pour tuer un homme de ses propres mains. De rester plus de 8 minutes ou de plus de 5 minutes, lui couper la respiration. Est-ce qu'ils savent ? Ils le savent pertinemment. Ils le savent qu'on n'est pas fait de bois et qu'on est fait de chair et de sang et qu'à un moment donné, une asphyxie va entraîner la mort. Ils le savent. Et quand vous avez autour, alors, des policiers qui regardent sans broncher, ah bah excusez-moi, si là, il n'y a pas une volonté collective d'aller jusqu'au bout, d'aller jusqu'à la mort, bah expliquez-moi ce que c'est. Voilà, c'est des meurtres au quotidien et on ne peut plus supporter que cela puisse se passer sous prétexte que ces policiers ont le monopole de la violence légitime. Il y a des principes qu'on doit respecter. Le principe de proportionnalité, le principe de légalité. Aujourd'hui, ce n'est pas respecté tout ça. Et on le voit bien au quotidien. On a des témoignages de jeunes qui nous envoient des vidéos, des visages tuméfiés de jeunes qui disent « Je te jure, j'ai rien fait, on m'a tabassé, je suis ressortie. » Vous savez, quand vous voyez ce genre d'image au quotidien, vous finissez par en pleurer tellement c'est insupportable. Vous vous dites, mais comment est-ce que ce sont des êtres humains qui sont derrière tout ça? Et c'est vrai, je peux le comprendre, je peux concevoir qu'il est difficile d'y croire. Parce que quand on n'a pas été touché par ce genre de drame, quand on n'a pas été touché physiquement, psychologiquement, par ce genre de drame, c'est compliqué d'y croire. Même nous, parfois, quand on voit, quand on reçoit les vidéos, on se dit mais c'est pas possible, qu'il soit inhumain à ce point. Et ça, c'est des policiers. Et c'est ça qui est gravissime. Donc nous, oui, depuis 8 ans, on tire la sonnette d'alarme, d'où le nom du collectif Urgence. Oui, il y a urgence à réagir. Vraiment, collectivement. Donc si on s'indigne pour les États-Unis, on doit s'indigner pour ce qui se passe en France.
Amal, il y a beaucoup de gens qui sont en train de découvrir le drame et la violence que vous venez de décrire à l'instant. Mais il y a aussi énormément de gens qui ont déjà conscience de tous ces problèmes et qui sont peut-être en train de vivre, au contraire de la vague d'espoir que ça peut solliciter, qui sont peut-être en train de vivre en ce moment une grande lassitude, voire du découragement, de se rendre compte qu'après des années de lutte, après un quotidien que vous décrivez et cette bataille permanente, de se dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui découvrent le problème, de se dire qu'aujourd'hui il y a des gens qui nient encore le problème, alors que des dizaines de milliers de personnes sont dans la rue. Je voudrais vous demander d'adresser un message à ces gens-là qui nous écoutent et qui sont conscients et qui sont peut-être en train d'être découragés.
Alors, moi, je vais vous dire, déjà, je porte le nom de Amal, qui veut dire espoir en arabe, donc je ne peux qu'avoir de l'espoir. depuis 8 ans maintenant que je mène ce combat. Je l'ai mené pour la mort de mon frère, qui a été tué d'une balle dans le dos alors qu'il était en fuite. On a prétexté, pour ceux qui ne me connaissent pas, qu'il avait une arme. Le procès a révélé que sur cette arme, il n'y avait aucune empreinte ADN, sauf celle de 4 policiers et non celle de mon frère. Donc voilà, on peut supposer que s'ils ont menti pour beaucoup de choses, ils ont menti pour ça aussi. Et les 8 témoins qui étaient là sur place, parce que c'est un combat, c'est vraiment un combat, hein, d'aller récolter, de faire des appels à témoins. Moi, je me suis battue comme une lionne pendant presque 8 ans, presque 5 ans avant qu'il y ait ce procès. Et l'appel à témoins nous a permis d'avoir récolté des témoignages des gens qui étaient là, qui sont passés et qui ont dit « Amine Bentounsi courait, il était de dos, à aucun moment il a porté atteinte à la vie de ce policier. » Et j'ai jamais perdu espoir. Vous savez pourquoi ? Parce que, en fait, je me battais en même temps contre cette injustice qu'on avait subie. Et je me battais en même temps contre moi-même. Vous savez, quand on perd un proche, surtout quand on se dit que les chances sont minces de tenir la justice, il y a plein de choses qui vous passent par la tête. Voilà. Donc je me battais contre ce monstre froid aussi, silencieux, qui était là, qui était présent. Et ce combat, c'était aussi une histoire de mener un combat contre moi-même, contre ce monstre qui aurait pu se réveiller à tout moment si je n'avais pas obtenu la justice. Et donc, j'ai rien lâché parce que je me suis dit, ce n'est pas possible qu'on puisse tuer un homme comme ça et prononcer un non-lieu. Vous savez ce que ça veut dire, non-lieu ? Non-lieu, ça veut dire qu'il ne s'est rien passé. Vous avez un homme qui est mort. Il ne s'est rien passé, circulé, il n'y a rien à voir. Est-ce que vous imaginez ce que ça peut faire ? Et je rappelle, quand on est victime de la police, on n'est pas des victimes à part entière. On doit se battre. Donc moi, ce combat, je l'ai pris à bras-le-corps et je remercie vraiment tous les soutiens, tous les artistes qui nous ont soutenus dès les premières heures. Et moi, j'ai beaucoup d'espoir que le changement qu'on espère viendra par cette jeunesse, viendra par ceux qui ont grandi dans des quartiers et qui aujourd'hui se retrouvent artistes, se retrouvent PDG ou directeurs. Ce changement viendra de là, de cette jeunesse qui a vécu ces choses-là et qui... à travers nos combats, se reconnaît aussi, se dit bah, « Ouais, moi, j'aurais pu être telle ou telle personne, j'aurais pu être un George Floyd. » Et c'est juste inacceptable. Donc moi, j'ai beaucoup d'espoir que cette jeunesse, elle ait une réelle prise de conscience avec l'aide de tous les artistes qui en prennent conscience et qui relaient cette information, qui sont là en soutien, qui signent des tribunes. Voilà, c'est ça la force. Je pense que il y a deux mondes. Il y a le monde des réseaux sociaux, il y a le monde des jeunes qui suivent tel ou tel artiste. Et je pense que c'est ça. Tout ce qui est médias dominants, les grands médias, vous savez, je pense qu'ils ont une idéologie et que quoi qu'il arrive. Ils auront du mal à changer, mais le changement, on doit leur imposer, en fait. C'est à nous d'imposer le changement. Parce que si on attend après eux, il ne se passera jamais rien, en fait. Et le changement, c'est par des initiatives, c'est par des démarches, c'est par une solidarité des uns et des autres. Moi, j'invite vraiment à soutenir toutes les familles de victimes. Vous pouvez nous suivre sur notre page, le collectif Urgence Notre Police Assassine. On est aussi une association qui est l'Observatoire National des Pratiques et des Violences Policières. Le changement vient aussi des outils qu'on pourrait mettre en place. Et à nous tous, je pense qu'on pourra changer les choses. Et cet outil, aujourd'hui, la réponse qu'on a trouvée, nous, pour le moment, pour créer ce contre-pouvoir, c'est cette application qui a l'air de bien déranger. Et on comprend pourquoi elle dérange. Mais voilà, donc soyez nombreux à la télécharger. Soyez nombreux à nous soutenir. Malheureusement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. On a besoin de dons, donc on compte sur vous. Il y a une adresse PayPal qui est onpvp@outlook.fr, parce qu'on a des frais fixes. On rappelle qu'on est une association de famille, qu'on n'a aucune subvention de l'État, qu'on a besoin de vos dons. Donnez ce que vous pouvez, 1 euro, 2 euros. Et voilà, c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est comme ça qu'on va maintenir la pression. C'est comme ça qu'on va essayer de créer des groupes de gens qui pourront nous apporter leur aide dans chacun leur domaine, qu'ils soient artistes ou qu'ils soient graphistes, développeurs, tout ce que vous voulez. On a besoin de ces gens-là. Donc voilà, donc, si on veut que l'application devienne pérenne, il faut continuer à nous soutenir, partager et être vigilant maintenant à chaque fois que vous assistez à un contrôle. Sortez votre caméra, sortez votre portable. N'hésitez pas à dire que vous filmez avec l'application UVP de façon à ce que ce genre d'image ne devienne plus une banalité. Parce que nous, on n'a pas créé cette application pour faire des images et pour faire du buzz. On a vraiment créé cette application pour essayer de sauver des vies, parce que des images de violences policières, des images de gens qui se font tabasser, c'est juste horrible. Et on veut des images de quelque chose, de situations qui peuvent être apaisées, en fait, tout simplement, que ces policiers se sentent surveillés, qu'à un moment donné, s'il y en a un d'entre eux qui peut déraper, il peut se dire qu'à un moment donné, on le filme avec cette application et que peut-être qu'il y aura des poursuites. Voilà, donc s'indigner dans la rue, s'indigner sur les réseaux sociaux, s'indigner quand on organise des marches. Voilà, c'est tout ça, c'est cette belle solidarité. Et moi, je crois vraiment, compter sur moi pour mener ce combat. Mais en tous les cas, il ne faut pas perdre espoir. Ça, moi, je ne l'ai pas perdu. La preuve en est, ce policier a été condamné, il a été reconnu coupable, malgré les mensonges, et que quoi qu'il arrive, il faut continuer à mener ce combat, voilà, pour la justice, parce que quand on n'a pas la justice, très sincèrement, c'est très difficile de dormir et de trouver la paix.
Merci beaucoup, Amal.
Merci à vous.
Merci infiniment pour le temps que vous nous avez accordé aussi. C'est la fin de cet épisode consacré à la parole d'Amal Bentounsi. Merci encore à elle d'avoir accepté de nous accorder un peu de son temps. Elle avait des choses à dire et il était important de lui donner cette tribune. Vous pourrez trouver les sources, les liens de tout ce qui a été abordé ici dans la description du podcast. Vous y trouverez évidemment aussi des liens pour soutenir le collectif Urgence Notre Police Assassine, que ce soit en signant sa pétition, en téléchargeant l'application UVP ou en donnant. N'hésitez pas à faire résonner cette voix qu'on entend trop peu, malheureusement, en partageant ce podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'Activiste. D'ici là, prenez soin de vous.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.